Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Demain, à l'abbaye de Fontevraud seront proclamés les lauréats de l'édition 2014 du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine. Catherine Lalanne, rédactrice en chef de Pèlerin, et Philippe Royer, grand reporter pour ce magazine, sont aujourd'hui parmi les invités de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Cela fait des années maintenant que j'ai l'honneur de compter parmi les membres du jury de ce Grand Prix Pèlerin. Et cette année encore, nous avons mis en avant quelques très beaux projets dans le domaine du patrimoine, pas seulement religieux, je le précise. Je suis heureux de recevoir dans ce cadre Catherine Lalanne et Philippe Royer, qui sont des habitués de ce micro, ainsi d'ailleurs qu'Alexandre Gady, que vous connaissez bien parce qu'il vient nous parler ici de temps en temps de monuments et de chefs-d'œuvre, pas tous en péril. Beaucoup le sont néanmoins, et je voudrais profiter de cette occasion pour attirer votre attention, vous qui nous écoutez fidèlement, pour vous faire prendre conscience d'une situation malheureusement préoccupante, celle du patrimoine de notre beau pays qui est en train de devenir le parent pauvre des politiques publiques, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, le grand oublié de nos contemporains. Alors c'est vrai, chaque année en septembre, le temps d'un week-end, les Français se ruent dans les lieux révélés à l'occasion des journées du patrimoine, qui ont un petit peu trop tendance, à mon sens, à devenir de super journées portes ouvertes. Mais ce n'est pas une raison pour négliger les 363 autres jours, tout ce trésor immense, infini de châteaux, de granges, de cathédrales et de chapelles, de moulins, de ponts, de lavoirs, d'ateliers, d'oratoires, de jardins et de cimetières, de maisons de ville, de fortifications, de lieux de fouilles, de ruines antiques, d'usines aujourd'hui désaffectées. La France possède le deuxième patrimoine d'Europe après celui de l'Italie, et l'un des tout premiers du monde. Ce patrimoine, il est notre richesse à tous. Je ne sais même plus comment le dire. Il faut que chacun comprenne bien ça. C'est une richesse qui appartient à chacun d'entre nous, sans condition d'aucune sorte. C'est votre bien autant que le mien. Alors il serait peut-être temps que nous commencions à nous en préoccuper. De quoi se compose ce bien commun, cette richesse collective, et j'inclus là-dedans les demeures privées, car elles contribuent au plaisir, à la fierté de tous. Ce sont bien sûr les monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques et des sites, et je vais vous dire dans un instant ce que ce classement doit à Prosper Mérimée. Mais attention, le patrimoine, ce sont aussi les milliers, les dizaines de milliers de beaux édifices, d'ensembles de charme, de somptueux paysages ruraux ou urbains qui font, j'espère ne jamais avoir à dire qui faisaient, de n'importe quelle promenade en France un véritable enchantement. Cette émission leur est dédiée, c'est bien peu, je le sais, mais ce n'est qu'un début. Ne désespérons pas. Comme l'a si souvent dit Pierre Bellemare sur cette même antenne, il y a sûrement quelque chose à faire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je vais vous donner toute une petite liste de monuments historiques. Vézelay, Notre-Dame de Laon, Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, le pont d'Avignon, les fresques de Saint-Savin-sur-Gartempe, la maison de Jacques Coeur à Bourges. On pourrait comme ça faire une très très longue liste, hein, 1000 lettrés. C'est à Prosper Mérimée que revient le mérite de poser les fondements de l'organisation du service des monuments historiques, nous dit quelqu'un qui s'y connaît, Pierre de Lagarde. Prosper Mérimée, nommé en 1834, inspecteur général des monuments historiques, devait, pendant 20 ans, se battre avec une rare énergie pour le sauvetage de nos monuments. Il y a quelque temps, en compagnie d'Alexandre Gady, nous parlions ici même d'un certain Alexandre Lenoir. Eh bien, on est un peu dans la continuité, si vous voulez, aujourd'hui. Qui est Mérimée? Je ne veux pas vous dire qui est Mérimée, d'ailleurs, ce serait presque insultant. Bon, vous connaissez ce grand écrivain. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à cette époque-là, on est dans une période de sa vie qui est marquée par l'amour. C'est le début de sa liaison avec Madame de Lesserre. Tout va bien, d'une certaine manière. Pour la première fois, nous dit Germaine Moncret, Mérimée avoue qu'il est gravement et grandement amoureux. J'aime bien l'expression. Il avait rencontré en 1830 cette femme de la haute société parisienne, épouse du banquier Gabriel de Lesserre, beaucoup plus âgée qu'elle et affligée d'infirmité. Ça aide d'avoir comme rival un très très vieux mari. Valentine de Lesserre n'était pas seulement belle et séduisante, nous dit la biographe, elle avait aussi infiniment d'esprit et possédait une rare culture. Elle s'est pris de Mérimée aussi vivement qu'il s'est pris d'elle. Valentine de Lesserre l'aimait, mais elle semblait résolue à demeurer dans le domaine sentimental. Mérimée la courtisait depuis plusieurs années lorsqu'il parvint enfin à vaincre ses dernières résistances. Malgré les raisons affectives qui l'attachaient davantage encore à Paris, Mérimée reprit bientôt ses tournées d'inspection. Alors d'inspection de quoi ? Ben oui. En 1834, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Adolphe Thiers, on est évidemment sous la monarchie de Juillet, hein, sous le règne de Louis-Philippe, en 34, Thiers a donc offert à Mérimée le poste d'inspecteur général des monuments historiques. Il ne l'a pas créé pour lui, il faut quand même le dire et le redire, parce qu'on a souvent l'impression que Mérimée a été le premier inspecteur. Non, le poste avait été créé pour Ludovic Vitet, qui lui est le tout premier inspecteur et avait déjà été nommé deux ans et demi plus tôt, par Louis-Philippe. Réaction de Mérimée lorsqu'il hérite de cette charge. « Ce poste, dit-il, convient fort à mes goûts, à ma paresse et à mes idées de voyage. » Il y a à peu près les motivations du bonhomme au départ. C'est Guizot, hein, d'ailleurs, qui avait créé le poste. J'aurais dû le préciser. Alors, quel est le but de tout ça ? C'est d'arrêter cette espèce de vandalisme qui a vu le jour au moment de la Révolution avec la vente des biens nationaux. Vous savez, tout le monde a pu acheter, pour peu qu'il fallait bien sûr en avoir les moyens, a pu acheter des monuments, des abbayes entières, des églises incroyables. Et certains, pas tous, mais certains en ont fait de véritables carrières de pierre, etc. On a tout démantelé, on a vu les gens avait sous les yeux la destruction physique du patrimoine de la France. Il fallait vraiment faire quelque chose. N'oubliez pas qu'on est dans cette période. Le tout premier qui fait quelque chose, c'est Louis XVIII en 1819. C'est lui d'ailleurs qui va le premier employer l'expression monument historique. Mais sous Louis-Philippe, ça prend une toute autre importance parce qu'évidemment, il y a cet intérêt pour l'histoire, ce retour sur le passé. Vous savez ce qu'on va appeler le mouvement historiciste. Je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, évidemment, Mérimée est déjà quelqu'un de très connu à l'époque. Il a publié en 1825 le théâtre de Clara Gazoul, en 27 la Gouzla, c'est tout un recueil de nouvelles qui a eu énormément de succès. Les chroniques du temps de Charles IX, ça c'est intéressant parce que ça s'inscrit justement dans le fameux mouvement de retour à l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, c'est quelqu'un de très connu dans le public. Il était simplement un homme doué qui avait une grande curiosité, nous dit Pierre de Lagarde, des dons littéraires certes, mais aussi une disposition très nette pour le dessin. Il n'a pas de formation, évidemment, il n'y a pas d'école du patrimoine à l'époque, hein, mais il a le goût, il a la sensibilité, il a surtout ce qui fait le grand amateur d'art, c'est-à-dire un œil. Cette capacité à distinguer derrière des vignes vierges ou du lierre très fourni, le mur qui présente un intérêt particulier, d'aller repérer au milieu de 36 cocoches la statue qu'il faut à tout prix préserver. Ça, il a ça, Mérimée, il l'a en lui. Mérimée a commencé par apprendre ce qu'il sera censé nous enseigner, dit Alexandre Dumas, un peu vache comme assez souvent. Jusqu'en 1834, il s'était surtout préoccupé de musique, de théâtre, de poésie, de littérature française et étrangère, nous dit Elisabeth Morel, bien plus que d'architecture et de patrimoine. La vérité, c'est que Mérimée est bien content qu'on lui permette de voyager aux frais de la princesse, mais qu'il n'a pas pour le moment une idée très précise de ce qu'il va faire, ni de ce qu'il convient de faire pour sauver le patrimoine français.
Extrait de la symphonie numéro 4 de Schumann, indicatif de l'émission Chef-d'œuvre en péril, l'émission TV culte des années 70. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Prosper Mérimée et plus précisément à son poste d'inspecteur des monuments historiques dans un court instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand au poste d'inspecteur des monuments historiques de Prosper Mérimée.
Alors, vous avez bien compris que Mérimée n'a pas une idée vraiment bien précise ni de la mission qu'on lui confie ni de ce qu'il va découvrir, mais il va apprendre sur le tas. Alors tout de même, quand je dis cela, c'est un homme d'une immense culture, il faut le savoir. Je vous ai dit qu'il avait cet œil incroyable. Il a lu l'archéologue et historien de l'art Arcis de Caumont, qui joue un rôle lui aussi très important, qui a joué ce rôle dans la naissance de la notion même de monument historique. Il se fait conseiller par Vitet. Bref, il ne débarque pas tout à fait sans biscuit. Au moment de commencer ma tournée d'inspection, j'éprouve plus que jamais le besoin de réclamer les conseils des personnes qui, par de longues études, ont acquis la connaissance parfaite des monuments du Moyen-Âge, dit-il. Ça nous donne une indication. C'est que dans son esprit, il est là d'abord et avant tout pour sauver ce qui reste du Moyen-Âge. Ça va être d'ailleurs un véritable fil conducteur, en tout cas pendant les deux, peut-être même pendant les trois premières tournées de Prosper Mérimée. Cette espèce de biais qui va lui faire regarder avec beaucoup plus d'intérêt les vestiges romans ou gothiques, par exemple, que tout ce qui a pu se faire par la suite. Mais pour cause, il faut aussi se remettre dans l'époque. On est au début du 19e siècle. Une chartreuse du 18e siècle, à l'époque, c'était encore un bâtiment moderne. Comprenez bien ça, hein, parce qu'on dit souvent « oui, Mérimée s'est intéressé qu'aux églises et aux choses très anciennes ». Et pour cause, les églises, c'est faux d'ailleurs, parce qu'il s'est intéressé à toutes sortes de monuments. Il sillonne, nous dit-il, une France encore plus inconnue que la Grèce et que l'Égypte. Ça, c'est intéressant parce que ça nous apprend qu'il y a, mettons, 150, même presque 200 ans, finalement, les Français déjà s'intéressaient beaucoup plus aux monuments de l'Italie, effectivement de la Grèce et puis alors de l'Égypte qui avait une vogue considérable. On est à la grande époque de Champollion, bien entendu. On s'intéressait beaucoup plus à tout ça qu'à notre propre patrimoine qui fait peut-être un peu trop partie du décor. Voyager à cette époque, effectuer comme le fait Mérimée de grandes tournées, ça ne va pas sans difficulté. Imaginez ce que sont les moyens de transport, bien entendu. On roule en malle-poste, souvent en cheval de selle hein, d'ailleurs, sur des tape-culs, comme dit Mérimée. J'ai fait, écrit-il un soir, 20 lieues aujourd'hui, en changeant 7 fois de voiture dans d'horribles machines sans ressort. Je suis roué, moulu. Et puis alors, quand on arrive à l'auberge... Il vaut mieux ne pas avoir peur des punaises la plupart du temps. Alors voilà le premier trajet de Mérimée, qui part de Paris évidemment. Il va s'arrêter longuement à Autun, qui est une véritable révélation pour lui. Et puis Vézelay, ça on l'a suffisamment dit et répété, évidemment, Notre-Dame de Vézelay a été sauvée, on peut vraiment le dire, par Mérimée. Elle est loin d'avoir encore connu les restaurations, je n'ai pas dit subies, qui viendront un petit peu plus tard. Donc, il descend hein, tout le couloir rhodanien, etc. Et c'est à Avignon, à Marseille, Fréjus, Toulon, Carcassonne, etc. qu'il va agir dans un premier temps. Ce fut la première d'une longue série de tournées vouées à la découverte des monuments en péril, nous dit Germaine Moncret. La deuxième tournée d'inspection a lieu l'année suivante. Évidemment, Mérimée voyage essentiellement à la belle saison, on peut le comprendre, étant donné les conditions de voyage que je viens de vous rappeler. Il voyage essentiellement en juin, en juillet, en août, et puis le reste de la saison, eh bien, il écrit, il sort, il fait sa cour, enfin bref, c'est un homme du monde, Mérimée. Et puis bien sûr, il rédige des rapports, parce qu'il prend des notes pendant les tournées, et puis ensuite il va rédiger des rapports qu'il accompagne d'ailleurs de dessins, un peu trop méconnus peut-être. Donc deuxième tournée d'inspection, à l'été 35, dans tout l'ouest de la France, la Bretagne, le Poitou. Je vous racontais l'autre jour le voyage et la surprise incroyable de Mérimée, lorsqu'il arrive devant le tumulus de Gavrinis, par exemple, vous vous rendez compte, il s'intéresse là à des édifices cultuels extrêmement anciens et qui nous ramènent en plein dans la proto-histoire. L'année suivante, le revoilà parti, cette fois du début du mois de mai au mois de septembre 1836, en Alsace. Alors, et puis, quand je dis en Alsace, dans l'est de la France, d'une manière générale. 1837, ce sera l'Auvergne, le Limousin, etc. Alors, évidemment, une route plus courte que d'habitude, mais dans des conditions de voyage d'autant plus difficiles qu'on est là en pleine montagne, vous l'avez bien compris. Et puis, je ne vais pas vous raconter toutes les tournées, parce que ça va durer comme ça pendant 12 ans. Et lorsque Mérimée est en tournée, il ne se contente pas d'aller voir les prêtres locaux et les évêchés, d'aller voir les propriétaires de châteaux, les maires, etc. Il rencontre aussi les autorités sur place. Il a de longues discussions avec les préfets. C'est lui qui va, comme on dirait aujourd'hui, joli barbarisme, sensibiliser les préfets à la question du patrimoine et à la nécessité de sauvegarder un certain nombre d'édifices. Je vous l'ai dit, il rédige des rapports, des lettres au roi, au premier ministre. Voilà ce qu'il dit à Adolphe Thiers. Le mauvais goût qui a présidé à la plupart des réparations faites depuis deux siècles, donc on est en 1840, vous voyez, depuis deux siècles, ça veut dire depuis Louis XIV, en gros, faites à nos monuments du Moyen-Âge, a laissé des traces peut-être plus funeste que les dévastations suite de nos guerres civiles et de la Révolution. Ben là encore, on a envie de dire qu'on n'a rien inventé. Vous voyez, les interventions abusives sur certains monuments sont encore plus graves que la simple emprise du temps. Mérimée, vous l'aurez compris, n'arrête jamais. À Mâcon, il écrit « Je suis accablé de fatigue car je fais mon métier en conscience. Courant la nuit, grimpant le jour, dans les vieilles masures, j'ai manqué me casser le cou. Si pareil accident m'arrive, soignez ma nécrologie. » Pierre de Lagarde nous dit « Il découvrait avec émerveillement des monuments qui lui étaient inconnus. Transportant avec lui ses fusains et ses cartons, il ne cessait de dessiner châteaux ou abbayes, fresques ou tapisserie, en bon romantique, s'unissait déjà en lui le texte et l'image. »
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, retour avec vous Franck Ferrand à Prosper Mérimée et à ses voyages en tant qu'inspecteur des monuments historiques.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'écrivain Prosper Mérimée et à son rôle d'inspecteur des monuments historiques.
Alors, Mérimée travaille beaucoup, voyage énormément, vous l'avez compris. « Je travaille toute la nuit et le jour », écrit-il à Requien. « Je dors ou reçois des visites. Vous recevrez dans 15 jours une formidable tartine de plus de 100 pages in folio. » Que vous ne serez pas obligé de lire tout entière, mais dont quelques pages suffiront pour vous procurer un sommeil facile, eussiez-vous pris un café fort comme dit Turc. Bon, ça c'est l'humour de Mérimée, bien entendu, qui va d'ailleurs faire son succès non seulement dans cette cour-là des Tuileries, mais dans la suivante, hein, à la cour de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Joséphine, qu'il connaissait du reste de sa jeunesse. C'est dans ces conditions très difficiles qu'il travaille donc, qu'il mène ses enquêtes. Et alors, il va de surprise en consternation. Pour vous donner quelques exemples, à Nevers, il trouve la basilique Saint-Sauveur, sublime basilique romane, transformée en magasin de roulage et grenier à foin. Quant à l'église de Saint-Genest, elle a été convertie en brasserie. Dans la grande cathédrale Saint-Cyr, il observe les vestiges de la Révolution et il écrit « Dans la Révolution, on a fait la guerre à toutes les figures humaines, à celles de pierre, au du moins qui ornaient l'église. On a décapité de jolis anges sculptés sur les clés pendantes. Pas un n'a trouvé grâce, je me trompe. On a épargné les gros seins du clocher, sans doute parce qu'ils étaient trop hauts pour la commodité des destructeurs. » C'est d'ailleurs très probablement l'explication, en effet. Alors, à Fontevraud, il trouve l'abbaye, vous le savez, transformée en prison depuis l'Empire, complètement délabrée, défigurée. Fontevraud, où j'aurai la chance d'être demain pour remettre ces prix, ce grand prix pèlerin 2014. À Avignon, les soldats ont vendu une partie des fresques du Palais des Papes. À Villeneuve-les-Avignon, tout près de là, Mérimée découvre le tombeau d'Innocent VI aux colonnettes si fragiles, aux feuillages si légers, nous dit-il, carrément dans la masure d'un pauvre vigneron, au milieu des tonneaux, des troncs d'oliviers et d'échelles énormes, dit-il. Vous voyez, tout ça voyageait d'une certaine manière. À Vienne, il déplore ce qu'il appelle les barbouilleurs qui se répandent dans les départements du Midi et couvrent les murs de nos églises de leurs ignobles compositions. Et oui, parce qu'en plus, on était dans cette époque pré-romantique et bientôt romantique où l'on s'est mis à faire un peu n'importe quoi en matière de décor. Et puis à Parthenay, l'église est transformée en magasin de foin. L'abbaye de Bernay sert de halle au blé, de gymnase aussi, enfin toute une partie de l'abbaye sert de gymnase, de salle de concert, de dépôt de pompes funèbres, etc. Et alors à Toulouse, c'est terrible. Je viens de voir pour la première fois l'église des Dominicains dans laquelle je n'avais jamais pu pénétrer, dit-il, c'est admirable. Une église immense à deux nefs séparées par d'immenses piliers d'une hauteur et d'une légèreté inouïe, une salle capitulaire encore plus hardie et plus élégante, un grand cloître avec des colonnes de marbre, des voûtes peintes, etc. Et voilà au milieu de tout cela, plus de 500 chevaux mangeant leur avoine et autant de canonniers dessinant ce que je n'ose dire. Alors, j'aurais raconté ça il y a 20 ou 25 ans, j'aurais dit « Mon Dieu, nous revenons de loin ». Hélas, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire « Mon Dieu, rien n'a changé au fond ». Bonjour Catherine Lalanne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous consacrez ce numéro de Pèlerin au patrimoine. Il y a ce concours dont on va dire un mot qui est à ça.
24e édition.
24e édition, que de bienfaits produits depuis un quart de siècle. Je suis heureux que vous ayez pu venir avec Philippe Royer. On va venir sur un certain nombre de questions qui démangent et qui font mal. Et pour ce qui est des questions qui font mal, évidemment, Alexandre Gady est le grand spécialiste.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Une émission spéciale patrimoine sur Europe 1 dans Au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous Franck Ferrand et vos invités Catherine Lalanne, rédactrice en chef du magazine Pèlerin, Philippe Royer, grand reporter au magazine Pèlerin et Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Depuis quand existe-t-elle cette association Alexandre Gady ?
C'est notre grande fierté, bien sûr, quand on travaille dans le patrimoine, c'est le temps long, on existe depuis 1901, elle a été fondée le lendemain du vote.
Une des toutes premières associations françaises, il faut le dire.
Absolument.
L'association, je redis son nom, l'Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. On l'appelle l'ASPEF dans le milieu, si je puis dire.
C'est un peu long.
C'est un peu long à dire. Alors, vous êtes évidemment aux premières loges. Vous êtes en quelque sorte un peu un enfant de Mérimée. De Mérimée et de Vité, d'ailleurs, il faut le dire.
Oui, c'était bien de rendre hommage au premier de la bande et de dire aussi que ce sont deux écrivains. Parce que Vité est aussi un homme de lettres. Ces gens qui savaient tout faire du 19e siècle, qui nous fascinent encore aujourd'hui, ils savent dessiner, comme vous l'avez dit, ils savent peindre, ils voyagent, ils font des commentaires intelligents, puis ils écrivent des livres. Et Vité, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, d'abord, il avait une phrase que malheureusement nous utilisons encore beaucoup, il disait « les mers me donnent bien du souci ». Ça, je dois dire que je le prononce
les
assez souvent.
Les mers, M-A-I, évidemment.
Hein. M-A-I, évidemment. Et puis, autre chose d'assez beau...
Il ne faut peut-être pas tous, je dis ça parce qu'ils sont très nombreux à nous écouter, les maires de France, il ne faut peut-être pas tous les mettre dans le
évidemment
même sac d'une
pas
certaine manière. Et il y en a qui, au contraire,
pas
font un vrai beau travail, il faut le dire aussi.
Et qui se battent pour notre patrimoine.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a autre chose qui me fascine chez Vité, il a passé le témoin à Mérimée parce qu'il a senti qu'il n'y arriverait pas et qu'il n'y avait pas assez de budget. Et il a dit cette chose merveilleuse, j'arrête, je deviens homme politique, je me fais élire député pour monter à la Chambre un discours autour du patrimoine. Et il a fait doubler le budget du patrimoine, on disait les monuments historiques. Donc il a quand même un investissement extraordinaire dans la vie publique.
On peut dire qu'en ce moment, le budget du patrimoine, il ne double pas.
Alors non seulement il ne double pas, mais il sert de variable d'ajustement aux baisses successives que le ministère a dû encaisser malgré les promesses du candidat Hollande, c'est-à-dire que depuis 3 ans, le budget du ministère de la Culture n'a pas été sanctuarisé. Alors on vient d'arrêter la chute dans le nouveau budget, mais il y a eu 3 années de baisse, et naturellement ces baisses, on les a fait porter sur les vieilles pierres et pas sur le spectacle vivant.
Il était question il y a quelque temps de remanier la célèbre loi sur le patrimoine, la loi de 1913, qui est un modèle non seulement en France mais pour un grand nombre de pays dans le monde. Hein, il faut dire, c'est une loi qui était pionnière, qui était remarquablement faite, mais qui évidemment n'est plus tout à fait adaptée à notre époque. Et ce serait peut-être le moment de faire enfin une grande loi sur le patrimoine pour essayer d'expliquer en quoi le patrimoine doit bénéficier d'un statut d'exception. Je crois que s'il y a un mot à retenir, et c'est celui qu'il faut marteler aux oreilles de nos élus notamment, c'est celui d'exception. On ne peut pas faire entrer les monuments, et au-delà même des monuments, on ne peut pas faire entrer tout ce que le passé nous a légué de beau, de raffiné, dans le lot commun d'une certaine manière. C'est ça l'essentiel, non ?
Bien sûr, et l'ASPEF avec d'autres associations nationales a été associé à cette élaboration de la loi qui doit arriver, semble-t-il, à la Chambre en 2015. Pour vous dire la vérité, comme l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, je suis un tout petit peu inquiet. Parce qu'évidemment, il y a des bonnes dispositions dans cette loi. Il y a aussi des dispositions qui sont pas très, à mon avis, porteuses de qualité pour le patrimoine. Mais il y a surtout un problème, c'est que le temps politique n'est pas très bon. On a un ministre qui est faible politiquement, qui n'est pas un grand personnage, évidemment, politique.
Qui n'est pas une figure clé du gouvernement,
non,
disons les choses.
Loin s'en faut. On a ses problèmes d'argent. Et moi, j'ai toujours peur qu'on détricote, qu'on touche à des édifices fragiles, anciens, qui tiennent le coup, comme cette loi de 13, qui a vraiment beaucoup de vertus. Hein. Et qu'en voulant faire mieux, on ait des batteries d'amendements au moment du vote de la loi qui détricotent des choses qui, évidemment, on le sait, peuvent poser problème dans une République qui n'est plus jacobine et centralisatrice, mais décentralisée.
C'est-à-dire, je parlais hier avec un architecte en chef des monuments historiques et qui me disait que l'un des problèmes, c'est que petit à petit, on a vu arriver des préoccupations environnementales, des préoccupations de sécurité et d'hygiène, mais surtout de sécurité, hein, notamment en matière de lutte contre l'incendie, etc. Des préoccupations maintenant d'accessibilité aux personnes handicapées, avec des rampes, des ascenseurs, etc. Tout ça Évidemment, ça part de bonnes intentions. Il ne s'agit pas du tout de mettre en cause l'écologie ou l'aide aux handicapés. C'est même magnifique dans l'ensemble et dans la société. Mais quand ça s'applique à certains jardins, à certaines églises ou à certains châteaux, disons les choses et osons le dire, c'est une vraie catastrophe. Et donc, il faudrait peut-être que le patrimoine retrouve son statut d'exception et qu'on considère que la protection du monument prime sur toutes ces considérations, certes utiles, mais secondaires peut-être.
Et c'est d'autant plus préoccupant pour les défenseurs du patrimoine que la grande cause écologique qui fait un travail sur la société entière, ce n'est pas une cause qui marche avec la cause patrimoniale, ce qui paraîtrait sembler aller de soi. Le développement durable, qu'est-ce qu'il y a plus de développement durable qu'une vieille maison, qu'une vieille église, avec leurs matériaux naturels, avec leur processus de renouvellement naturel? Eh bien, les écologistes sont devenus nos ennemis. C'est-à-dire que patrimoine et écologie, ça marche pas du tout. Et c'est en ce
moment...
C'est
très bizarre, ça.
C'est très bizarre. Alors, on a les mêmes difficultés à faire entendre la voix démocratique, et on sait bien ce qu'il est advenu il y a quelques semaines, malheureusement, dans le Tarn. C'est les mêmes blocages face à nos revendications.
On parlait du barrage de Sivens, là.
Voilà, c'est-à-dire du process démocratique, des décisions qui ne fonctionnent pas très bien en France. Les associations sont très en souffrance, là, de ce point de vue-là. Mais en revanche, alors, sur le fond, on se sépare. Alors, on a, le problème de l'isolation des bâtiments par l'extérieur, qui est une folie furieuse. Évidemment, j'ai vu que, évidemment, c'est le thème de votre chronique dans le Pèlerin Magazine dont on parle. Je crois que c'est vraiment très important. Ça se passe en ce moment. La loi est au Sénat.
Alors, puisque moi j'en parle grave. Dans Pèlerin, parlez-en vous, Alexandre Gadi. Ça va me faire des vacances. Expliquez quel est le danger. Et c'est très immédiat parce qu'on est en fin de première lecture au Sénat, là.
Oui,
donc
oui,
la loi
absolument.
Va passer en deuxième lecture à l'Assemblée très bientôt. Hein.
Écoutez, c'est une idée aussi incroyable que simple et stupide qui consiste à dire, si vous avez des problèmes d'isolation, on va isoler les bâtiments par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va les doubler, comme la maison de Barbapapa, ça va ressembler à un gros chamallow.
Les encapuchonner, quoi.
Les encapuchonner, ça veut dire aussi, tout simplement, moi qui suis historien de l'architecture, la mort de l'architecture, parce que vous effacez la façade. Ce ne sait plus qu'une une partie lisse avec des trous pour les fenêtres et les portes. Tout ce décor que sont les frontons, les mascarons,
les
modélatures, les corniches, tout ça, vous avez le droit de les recoller sur la façade regonflée, si j'ose dire. Vous avez le droit de les souligner avec de la peinture. Enfin, tout ça n'a vraiment aucun sens. On est là, arrivé au cœur d'une folie qui, comme l'éolien qui défigure nos paysages, est une chose irresponsable.
Et oui, alors ça c'est pour... on parle là du bâti ancien qui n'est ni classé ni inscrit. Alors on va dire, oui mais attention, tout ce qui est classé va échapper à la loi. Mais le problème c'est qu'il y a des milliers de très beaux
Évidemment.
Édifices qui ne sont pas classés. On va pas se mettre à tout classer, c'est pas possible.
Et ça reconstruit ce que nous dénonçons sans relâche, c'est-à-dire deux France. Il y a la France belle et la France moche, il y a la France protégée et la France qui n'est pas protégée, il y a la France qui a des éoliennes et la France qui n'en a pas. Et à chaque fois, c'est ce qui ne va pas, c'est bon pour les autres. On ne peut pas construire comme ça quelque chose d'harmonieux, que ce soit sur le plan social et sur le plan esthétique. C'est une préoccupation politique aussi au sens noble du terme.
Alors nous allons parler, Catherine Lalanne, dans un instant du concours, hein, de ce grand concours Pèlerin. Mais c'est très bien que vous ayez profité de l'occasion pour tirer un certain nombre de sonnettes d'alarme, dont celle-ci, mais ça n'est pas la seule, hein, dans le numéro
Tout
de Pèlerin.
Fait. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Gadi, c'est vrai que nous, depuis 24 ans que nous sommes engagés dans cette défense du patrimoine de proximité pour éviter justement qu'il y ait deux France, nous sommes sensibles à un patrimoine qui ne tire pas la couverture à lui, qui n'attire pas forcément les grands mécènes, qui n'est pas bâché, qui ne va pas être mis sur le devant de la scène et auquel pourtant nos lecteurs sont très attachés et qui fait la richesse de la France. Et c'est vrai qu'en 24 ans, nous avons... restaurer, bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan des chefs-d'œuvre en péril, mais on en est fiers, 250 édifices et objets remarquables qui vont des lavoirs dont vous parliez, des moulins, des fermes, des belles demeures, des granges anciennes de nos régions, aux croix de chemin, sur les chemins de Saint-Jacques, des petits oratoires, des chapelles perdues.
Des églises partout menacées, Philippe Royer. Hein, il y en a des quantités. On en découvre quasiment de nouvelles chaque semaine, en fait.
Absolument. Hein. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 270 églises qui sont menacées. Alors, certaines ont déjà, elles sont menacées. D'autres ont été détruites déjà, purement et simplement. On pense à l'exemple d'Abbeville, de l'église d'Abbeville, qui a été tout simplement démolie à coups de pelleteuse en quelques semaines, hein, pratiquement sans avertissement. Il y a d'autres églises qui sont très menacées, qui sont l'objet de confrontations entre des associations, le maire, le préfet. On arrive aujourd'hui à des situations juridiques et des situations patrimoniales qui sont quasiment inextricables.
Il y a évidemment toute la question des... Je trouve d'ailleurs très bien que vous l'ayez mis en exergue, la question du devenir des chapelles d'hôpitaux également. Hein, ça, c'est... qui sont complètement oubliées et la plupart du temps même menacées, directement menacées.
Oui, puisqu'on a fait un dossier sur la chapelle de l'ancien hôpital de Dijon. L'hôtel Dieu de Dijon, donc Dijon un nouvel hôpital, hein, comme dans beaucoup de villes, et c'est tout à fait légitime. L'ancien hôtel Dieu va devenir une cité de la gastronomie. À Dijon, c'est légitime aussi. Mais en revanche, la chapelle, qui n'est toujours pas désacralisée, devrait devenir une vinothèque, du moins d'après le vœu de la mairie de Dijon, de la ville de Dijon. Donc il y a un bras de fer aujourd'hui entre l'archevêché et la ville, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'un endroit pareil, qui sert toujours, qui est toujours un lieu de culte, soit purement transformé, purement et simplement en vinothèque, devienne un endroit où l'on vend du vin.
Vous pointez du doigt également la difficile reconversion, j'aime beaucoup cette expression, des bâtiments d'État. En l'occurrence, on parle notamment du célèbre hôtel de la Marine, place de la Concorde, qui est, j'allais dire, un peu l'arbre qui cache la forêt. Disons que c'est l'élément très célèbre qui en cache certains autres. On vient de brader, si je puis dire, un certain nombre de fleurons du patrimoine, là d'ailleurs, très récemment encore, Alexandre Gadi.
La grande tristesse, c'est qu'on a appris cet été qu'après des années de recherche d'un propriétaire potentiel, l'État a vendu notre patrimoine, qui est en l'occurrence le pavillon de la Muette, construit par Gabriel pour Louis XV dans la forêt de Saint-Germain.
Très joli pavillon de chasse,
un pavillon
royal,
délicieux, oui. Pavillon royal, construit par l'État, pour l'État, qui a toujours été dans la main de l'État. C'est un bâtiment qui est en plus dans le domaine de la forêt domaniale de Saint-Germain, à côté de Maison Lafitte. Donc c'était vraiment un morceau de la couronne qu'il fallait pas vendre. Oui, hein. C'est un drame.
Ça s'appelle vendre l'argenterie, ouais. Et c'est pas très joli, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a d'une façon plus générale des monuments qui ne sont plus entretenus. Alors, on a beaucoup parlé déjà, mais il faut jamais cesser de le faire, de Villers-Cotterêts par exemple, c'est un cas emblématique.
Et alors on espère beaucoup que l'année François 1er qui approche, 2015, évidemment va permettre de remettre sur le devant de la scène, mais c'est un château de la Loire qui n'est pas sur la Loire si j'ose dire, un château Renaissance qui est trop loin des centres de tourisme, dans un petit village. On a arraché Alexandre Dumas qui était une des si j'ose dire, c'est pas très correct, une des attractions de Villers-Cotterêts. Il y a une mairie aujourd'hui qui a rencontré je crois un certain nombre de difficultés politiques, et donc tout ça fait que Villers-Cotterêts, qui est un des châteaux majeurs de notre histoire, complètement à l'abandon et à la dérive. Qu'est-ce qu'on va faire de ce monument? Il faut vraiment là que tout le monde se mobilise, parce qu'on va perdre un monument majeur.
Oui, alors honnêtement, on ne sait même plus trop quoi ni comment faire, puisque on le dit régulièrement, etc. Mais il y a des gens qui se manifestent et puis il se passe rien de très concret. Et pendant ce temps-là, on a l'impression que le rouleau compresseur de l'indifférence générale écrase toutes ces questions. Il y en a une qui m'est particulièrement sensible, et vous avez bien fait là aussi, Philippe Royer, de développer ça. C'est toute la question de la dispersion du monument des grandes du mobilier, pardon, des grandes demeures. Il y a cette photo qui est terrible, hein, qui était une photo du château de la Roche-Guyon, où l'on voit l'un des deux grands salons de la Roche-Guyon meublé dans un premier temps, avec ses consoles, tout son mobilier d'ornement, ses grandes tentures, ses miroirs, etc. Et puis ses sièges, etc. Et puis en dessous, ce que c'est devenu. Et c'est devenu un hall de gare, en fait.
Exactement, il n'y a plus rien. Ça s'est fait à la fin des années 80. Mais ensuite, il y a bien d'autres châteaux qui ont subi le même sort. Hein. Le château de Dampierre, récemment. Il y a eu aussi toute cette affaire.
Dramatique histoire.
Absolument. Et vous vous souvenez sans doute aussi de ces châteaux dépecés par une société japonaise à une époque qui a vraiment, il a fallu des années pour qu'enfin on se rende compte de la perte patrimoniale.
Et le château de Villette, là, etc. Oui, bien sûr. Parce que non seulement souvent ces sociétés ou ces particuliers d'ailleurs retirent le mobilier, les tentures, etc., mais ils vont jusqu'à défaire les rampes d'escalier pour les reconstruire dans le Minnesota ou par enlever les fontaines des jardins pour qu'on retrouve en Chine ensuite. Il faut dire tout ça, parce qu'il y a, un véritable dépeçage là, de ce point de vue.
C'est un dépeçage. Alors, la dernière, ce qui nous a fait un peu bondir, effectivement, c'est l'échelle, le volume n'est pas le même, mais c'est le Train Bleu. Vous savez, le célèbre restaurant de la gare de Lyon,
bien sûr,
à Paris,
oui.
Qui a été repris, restauré par une société. Bon, c'est la loi du commerce, hein, peu importe, mais qui a été restauré. Alors, on ne peut que louer la restauration des fresques murales, des dorures, c'est magnifique. Mais le nouveau propriétaire en a profité pour se débarrasser d'un ensemble mobilier qui avait été spécialement fait pour ce restaurant et qui était magnifique.
Alors que se passe-t-il, Catherine Lalanne? On a l'impression que où qu'on porte les yeux, c'est un désastre ou c'est une catastrophe. Que se passe-t-il avec le patrimoine qui, il y a quelques années encore, se portait si bien, c'est ce qu'il faut dire. Pourquoi est-ce que on a l'impression que tout change là en ce moment?
Mais c'est vrai ce que vous dites. Nous, on s'en rend compte dans les dossiers qui... Vous savez, c'est un baromètre, ce concours depuis 24 ans. Il y a 24 ans, quand ce prix s'est créé, on avait des retours des associations de bénévoles qui nous disaient que notre dotation leur mettait le pied à l'étrier et que les subventions étaient décrochées très aisément par la suite. Aujourd'hui, les dossiers sont en déshérence. On voit monter les dossiers dont nous venons de parler. Ils arrivent, les chapelles d'hôpitaux, les églises de village. Nous voyons arriver des bénévoles à bout de souffle qui sont confrontés aux restrictions budgétaires et qui n'ont pas beaucoup d'interlocuteurs. Et en même temps, pour ne pas être trop sombre, je voudrais dire que parallèlement à ces difficultés à obtenir des financements, il y a aussi... Et ça, c'est une bonne chose, une prise de conscience de nombreux maires, de la valeur identitaire d'un clocher dans un village et aussi peut-être de ne plus séparer culture et économie, culture et tourisme. Et de se dire, et ça va de pair, et qu'en restaurant des lieux qui symbolisent une commune, on a un levier là de développement pour la commune, et ça c'est quelque chose qui monte et qu'on ne voyait pas il y a 10 ans.
C'est vrai, la prise de conscience des intérêts touristiques notamment.
Tout à fait.
Il faudra y revenir dans un instant. Je voudrais surtout qu'on revienne sur la question du financement, parce que nous allons voir qu'elle n'est pas la seule et qu'elle n'est pas irrémédiable.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les monuments en péril sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités. Catherine Lalanne, rédactrice en chef du magazine Pèlerin. Philippe Royer, grand reporter au magazine Pèlerin. Et Alexandre Guédy, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Alors, il faut que nous revenions rapidement, parce que je voudrais parler de ce concours et des lauréats, bien entendu, qui vont être récompensés demain à l'abbaye de Fontainebleau, à l'abbaye de Fontevraud, pardon. J'étais en train de regarder Fontainebleau à l'instant. Triple problème, Alexandre Guédy, désengagement de l'État, désengagement des collectivités publiques et découragement des mécènes et des bienfaiteurs privés, disons. Ça fait un triple problème de financement.
En réalité, ce qui est compliqué, c'est que, et l'histoire de Mérimée nous permet de revenir au début de l'histoire,
aux sources,
c'est que en France, l'État, qui donne la béquée ou la fessée depuis longtemps,
depuis toujours,
avait pris en charge complètement l'affaire de la défense des monuments historiques, puis du patrimoine. Et puis est arrivé le nouveau paradigme qui organise notre société, la décentralisation, et là, tout le monde s'est trouvé un peu bête. L'État a dit, maintenant, il y a des choses qui seront du ressort des régions, des départements. Alors, on a décentralisé déjà les archives départementales, l'inventaire, qui est maintenant aux régions.
Et bien sûr.
Alors, l'inventaire qui doit être en ce moment dans les services de l'inventaire, on doit trembler.
L'inventaire, c'est la liste des monuments. Hein.
Voilà, avec la nouvelle carte des régions, ça doit poser de nouveaux problèmes compliqués. Et puis, évidemment, les lois se sont aussi desserrées. On est passé du sommet au niveau, par exemple, des concentrés, des préfets de région qui sont devenus des gens assez importants dans l'histoire du patrimoine. Et donc, voilà, il faut habituer, évidemment, notre raisonnement politique à ne plus aller toujours quémander à Versailles, cire, mais au contraire, à s'organiser entre citoyens. D'abord, les associations sont là pour ça, elles portent ce message démocratique, et puis les élus locaux qui doivent prendre en compte, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, on voit monter quand même la compréhension que voilà, on va avoir mis une génération, mais il faut que les élus locaux comprennent que c'est maintenant eux les acteurs majeurs de cette transformation.
Mais ce que nous disions à propos de cette dangereuse loi de transition énergétique, la dangereuse pour ce qui est du patrimoine, je ne me permets pas de juger la loi évidemment, mais pour ce qui est du patrimoine, elle est dangereuse pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, hein, cette histoire d'isolation par l'extérieur qui est effroyable. Ça n'est pas un problème de budget, c'est bien un problème de réglementation. Or, cette réglementation, elle est devenue étouffante pour tous les acteurs du patrimoine. Il semblerait même, si j'ai bien compris, à force de parler avec les gens, etc., qu'un certain nombre de propriétaires de grandes demeures, de très beaux jardins, etc., qui, jusqu'alors, ont fait beaucoup pour le patrimoine, finissent par dire, écoutez, moi je m'en vais, je ne peux plus, il y a trop de règlements, il faut une commission de sécurité, une commission d'accessibilité, une commission... Bref, au bout d'un moment, trop de commissions tuent l'énergie et la motivation. Il faut le dire, ça. Ça, c'est pas un problème budgétaire.
Non, c'est souvent un problème de bon sens. Alors là, je dis un gros mot, hein, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut faire aussi attention à cette histoire de réglementation. Bien sûr que nous souhaitons que les réglementations soient courtes, brèves, logiques, intelligentes. Mais il y a un discours qui vient percuter ça, qui est le discours de la simplification, dont on nous rebat les oreilles dans la vie politique française, et là qui est très grave, parce que sous couvert de simplification, beaucoup de gens veulent passer le bébé avec l'eau du bain et évidemment ne plus rien laisser. Voilà. Donc il faut faire très attention. La réglementation, c'est aussi le signe de la civilisation.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut passer du prêt-à-porter au sur-mesure, d'une certaine manière. Il faut regarder au cas par cas, avec intelligence, avec compréhension, en mettant tout le monde autour de la table, au lieu d'avoir des espèces de règlements qui tombent d'on ne sait où et qui empêchent de travailler. Bon, je ne sais pas si nous nous faisons comprendre, mais je l'espère, parce qu'il y a, encore une fois, il y a urgence, il faut bien en être conscient. Pardon, d'habitude, cette émission vous fait rêver, vous éloigne des préoccupations du quotidien. Aujourd'hui, elle vous y ramène, et je salue les auditeurs courageux qui nous soutiendront là-dessus, parce que c'est vraiment important. On pourrait presque dire que c'est une grande cause nationale, Catherine Lalanne.
Une grande cause nationale, en tout cas une grande cause pour notre journal. Parce que les valeurs qui sont portées par les personnes qui défendent le patrimoine, en tout cas les bénévoles que nous essayons de soutenir, ce sont de belles valeurs qui sont bien nécessaires à nos temps d'aujourd'hui. Je veux dire, l'humanisme, la transmission, l'intergénération, le partage, tout ce qui contribue à enraciner, à relier les hommes, à porter sa pierre à la beauté du monde. Je trouve que quand les temps sont difficiles, eh bien, le patrimoine, soutenir le patrimoine, c'est pas soutenir seulement les vieilles pierres, les vitraux ternis, les statues mutilées, c'est aussi soutenir les projets qui mettent les hommes debout ensemble. Et ça, c'est fondamental, on le dira jamais assez.
Alors c'est ce que vous faites avec ce concours. Il faut expliquer comment ça fonctionne, ce concours qui s'appelait pendant longtemps Patrimoine pour demain.
Qui devient le Grand Prix Pèlerin du patrimoine. Qui va décerner 8 prix cette année. C'est un concours qui n'est pas seulement tourné vers le passé. Nous soutenons dans les 8 prix, nous avons un prix pour aider un jeune artisan d'art à s'installer. Nous mettons le pied à l'étrier aux générations futures qui ne sont pas aidées aujourd'hui pour entrer dans le monde du travail. Donc c'est important pour nous de les soutenir. Et puis nous soutenons la création contemporaine d'art sacré avec les chantiers du Cardinal. Et là aussi, c'est une manière d'inscrire le patrimoine dans l'avenir. Alors peut-être un mot, Franck, vous le connaissez déjà puisque vous êtes membre de ce jury et fidèle soutien de ce prix depuis ses débuts. Peut-être de notre Grand Prix Pèlerin du patrimoine.
Oui, bien sûr.
En avant-première puisque nous le remettons demain à Fontevraud. Alors en cette année du centenaire, nous avons une chance extraordinaire puisque nous avons reçu un dossier magnifique, Mémoire de verre, Mémoire de pierre, qui nous a été envoyé par la commune de Préau-du-Perche dans l'Orne. C'est une très belle histoire humaine. Il y a 200 hommes de ce village qui sont partis à la guerre de 14-18 et 49 qui ne sont pas revenus.
C'est considérable. Ça n'est pas un cas unique, mais c'est quand même terrible.
Et la municipalité, pour honorer leur mémoire, a confié à un peintre verrier de la célèbre maison Champignol leur visage et il les a peints dans le verre sur les 10 grandes fenêtres, les 10 verrières de l'église du village. Et puis avec le temps, les visages commençaient à s'estomper, les contours, les traits. Et le prix, le Grand Prix Pèlerin du patrimoine permettra de restituer ces 49 poilus à leur commune et aux enfants des écoles de venir faire des ateliers d'écriture, des expositions. Bref, on ne pouvait pas rêver d'un plus beau prix en cette année du centenaire d'anniversaire de la guerre de 14-18.
Ce qu'il faut dire, Philippe Royer, c'est que tous les prix ne sont pas identiques. Hein. Ce n'est pas la même somme qui est décernée à chacun des lauréats. Ça dépend des besoins de chaque projet. C'est un prix, on pourrait appeler ça participatif d'une certaine manière. Il s'agit de s'insérer dans un projet de restauration ou de remise en état.
Oui, on juge évidemment la somme qui nous est demandée. Et puis, il y a des prix qui sont soutenus par des mécènes aussi. La sauvegarde de l'art français, les chantiers du Cardinal, la Fondation du patrimoine qui dotent évidemment ces prix et qui nous aident beaucoup.
On pourrait même dire que sans ces mécènes, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'un journal peut abonder dans cette direction. Et comme le disait Philippe, les critères sont très exigeants. On ne va pas restaurer un retable si la toiture fuit. On va d'abord mettre le monument hors d'eau. On va juger de l'intérêt mémoriel, historique, esthétique du monument. Et puis du projet collectif, justement, qui soutient cette demande.
Bien sûr. Alors, faites-nous rêver, donnez-nous quelques exemples de lauréats qui vont être récompensés demain, qui seront récompensés par Madame Carrère-Dancos, d'ailleurs, le secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Alors, c'est une grande chance pour nous. Chaque année, nous essayons d'associer des parrains et marraines prestigieux pour porter notre combat. Et Hélène Carrère-Dancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française et pour qui le premier patrimoine est la langue française et qui la défend ardemment, est aussi présidente d'honneur du comité de soutien de l'église, une des plus vieilles églises de Paris, je pense, l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc cette année, elle est à nos côtés pour soutenir nos lauréats. Alors,
l'art religieux est le roman de notre nation.
Tout à fait, que la France est recouverte d'un blanc manteau d'église. C'est une des marques de notre pays. Alors, vous faire rêver. Alors, à la fois, une jeune restauratrice de vitrailliste, un magnifique retable baroque en Savoie, une église au décor peint de style troubadour dans le nord de la France, une façade d'école dans une abbaye de la Somme. Enfin,
voilà.
Je ne veux pas tout dévoiler, mais
tout ça est dans la livraison de pèlerins de cette semaine. D'ailleurs, il faut le dire, et les prix seront donc remis demain après-midi à l'abbaye de Fontevraud, merveilleuse abbaye dont on a l'occasion de parler très souvent dans cette émission. Les messages, ça me fait plaisir. Les messages sont très nombreux sur Facebook, via Twitter, etc. C'est Anaïs sur Facebook qui nous dit « Je suis bien contente que vous évoquiez enfin ce sujet, etc. » Et elle dit « N'oubliez pas le patrimoine écrit qui n'est pas toujours pris à sa juste valeur, foi d'archiviste. » C'est vrai que ça fait partie aussi des questions qui se posent, ça, évidemment, Alexandre Gadi.
La conservation des archives, leur bonne conservation, d'abord il faut les identifier, il faut essayer qu'il n'y ait pas des archives privées fermées qui nous privent d'une partie de l'histoire de France, et puis ensuite elles doivent être, évidemment selon la loi sur les archives qui est très belle, hein, communicables au public et permettre de travailler à tous les historiens.
Quel serait, parce que beaucoup de nos auditeurs nous parlent de l'Italie, c'est nouveau ça, pendant longtemps on citait l'Italie comme contre-exemple, et là j'ai l'impression que c'est en train de devenir un exemple. La politique du patrimoine est mieux faite en Italie ?
En ce moment, pas du tout, puisque les Italiens sont en train de vivre une catastrophe budgétaire qui est très supérieure à celle qui est chez nous. Mais en revanche, il y a une chose fondamentale qui reste en Italie, c'est la culture partagée autour du patrimoine, parce que l'histoire de l'art a été introduite à l'école très tôt au XXe siècle et qu'il y a cet amour des monuments très fort des Italiens pour leur histoire, pour leur patrie. Patrimoine, là, chez eux, c'est un mot qui a particulièrement du sens.
Je renvoie donc nos auditeurs à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la SPEF, et puis, bien entendu, au numéro de Pèlerin de cette semaine. Je voulais aussi citer l'exposition Viollet-le-Duc, les visions d'un architecte qui se tient en ce moment à la Cité de l'architecture et du patrimoine au palais de Chaillot. Bonjour Marion Ruggeri.
Bonjour Franck. Aujourd'hui, nous recevons une jeune actrice dont le nom appartient au patrimoine français, puisqu'il s'agit de Julie Depardieu, qui est à l'affiche de À la vie, un très beau film dont on va vous parler. Et puis évidemment, on va aussi lui parler de sa famille et de ses projets.
Merci beaucoup Marion. Nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec plaisir Franck, à demain.